Dans cette séquence, nous allons parler de la croissance des villes et du fait que ces croissances se produisent toujours en interdépendance. Nous partons d'observations sur l'ensemble des systèmes de villes qui montrent toujours au cours du temps, sur des périodes très longues, une grande persistance de la trame géographique des villes et de leurs différences hiérarchiques de taille. Et nous observons également dans ces systèmes que la croissance se répartit dans toutes les parties du territoire qui porte les villes. C'est le cas ici sur l'ensemble des villes européennes observées sur plus d'un siècle de distance. Les cercles sont proportionnels à la taille et nous voyons cette expansion générale des villes en même temps que la persistance des points forts de la trame qui correspondent aux plus grands cercles à chaque date. C'est le cas également pour l'Inde. Entre 1901 et 2001, nous avons ces deux mêmes observations. Nous retrouvons ainsi cette évolution, cette croissance distribuée dans l'ensemble du système, même dans les pays neufs où une partie de la croissance s'effectue dans le sens d'une colonisation de parties nouvelles du territoire, comme aux États-Unis, où l'urbanisation a progressé de l'est vers l'ouest. Mais vous voyez qu'une fois que les régions sont urbanisées, que le réseau des villes est constitué, eh bien, il évolue de la même manière que ce que nous avons pu observer dans les territoires plus anciennement urbanisés. Nous avons un bon modèle statistique qui a été formalisé par le statisticien français Robert Gibras dès 1931 et qui nous permet de décrire assez précisément ce qui se passe. En effet, Gibras nous permet d'expliquer la forme de la hiérarchie des tailles de ville qu'il assimile à une distribution log normale, c'est-à-dire dont le logarithme suit la loi normale. Avec cette loi qu'il appelle loi de l'effet proportionnel, parce que la croissance s'effectue de manière proportionnelle à la taille des villes, et donc ça signifie que le taux de croissance, la croissance relative, eh bien, elle est subégale d'une ville à l'autre, elle reste du même ordre de grandeur sur le long terme, même si à court terme, elle connaît beaucoup de fluctuations pour une ville et entre les villes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle de Gibras? C'est un modèle de croissance qui est très simple, aléatoire. Il prévoit simplement trois conditions. Il suffit que la croissance soit proportionnelle à la taille des villes, c'est-à-dire que la quantité de population qui s'ajoute delta P à chaque intervalle de temps soit en fait une fraction de la population initiale, P observé au temps T0. Il faut que les taux de croissance soient indépendants de cette taille initiale, donc la variation relative delta P sur P est une constante, petit r, qu'on appelle un taux de croissance ou taux de variation de population. Et puis, il faut que ces taux de croissance se redistribuent d'une manière aléatoire, d'une période sur l'autre, donc ils ne persistent pas au même niveau, élevé ou bas relativement, dans les mêmes villes. Et Gibras montre que si ces trois conditions sont réunies, eh bien, la taille des villes évolue sur un temps très long vers une distribution log normale, dont le logarithme de la taille est une distribution normale. C'est une distribution qui ressemble à la loi de Zipf que nous avons déjà utilisée pour approcher les formes des hiérarchies urbaines. Ce modèle, bien entendu, ne constitue qu'une explication au sens statistique de l'universalité de la forme des hiérarchies urbaines que nous avons repérées dans tous les systèmes et également du fait qu'elles persistent sur de très longues périodes suivant cet enchaînement historique path dependence qui est une caractéristique de nos systèmes en sciences sociales. Nous allons observer cette évolution sur l'ensemble des villes françaises. Ici, représenté entre 1831 et 1999 dans leur distribution donc du rang qui correspond au nombre de villes dont la taille est plus grande qu'une certaine population P portée en ordonnée Et vous le voyez, le parallélisme des courbes montre que cette hiérarchie urbaine maintient sa forme en dépit de l'élévation générale des tailles de ville, et qu'une de ses particularités propres à la France, qui est cet énorme écart entre la première et la seconde ville, la population de Paris étant demeurée à peu près 7 fois plus grande que la population de la deuxième ville, alors que statistiquement, on attendrait plutôt un rapport de l'ordre de 2. Cette persistance des hiérarchies urbaines est observée également dans le système urbain européen qui s'est constitué à peu près à l'époque de la Renaissance en termes d'interconnexion entre les villes et donc d'interdépendance. Et vous le voyez là aussi, un grand parallélisme de ces hiérarchies, même si évidemment dans le détail, les positions des villes individuelles ont pu se modifier et sauter d'un rang à l'autre. Dans un pays plus petit et d'urbanisation plus récente, comme l'Afrique du Sud, eh bien, on observe également, depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin, ce parallélisme des courbes caractéristiques d'une persistance de la hiérarchie urbaine, même si les positions des villes ont pu varier à l'intérieur de cette hiérarchie. Donc, le modèle de croissance des villes de Gibra est un modèle générique, dont on a pu tester la pertinence sur un très grand nombre de systèmes de villes, et il reste en première approximation valide, c'est-à-dire que les trois conditions sont à peu près vérifiées, pas toujours, mais pas toujours également, mais malgré tout, ça reste un descripteur convenable de ce qui se passe dans un système de villes. Et c'est intéressant parce que ce modèle prévoit également, à cause des fluctuations, à cause de la variance des taux de croissance, une augmentation des inégalités de taille entre les villes qui est également observée. Quand on raffine les tests statistiques, on observe que tout n'est pas exactement conforme à ce modèle purement statistique. Vous voyez là des ajustements effectués sur trois ensembles de villes, le Brésil, l'Europe et l'Inde, et tous présentent la petite particularité notée à propos de l'Inde par le cercle orange, qui montre que les plus grandes villes sont un peu plus grandes que ce qu'on attendrait dans le cas d'une distribution log normale. Nous retrouvons là cette particularité de la primauté des plus grandes villes de chaque système. Mais en outre, le modèle statistique n'explique pas tout ce qu'on observe dans l'évolution historique des systèmes de villes. Donc, il ne prévoit pas cette macrocéphalie que nous avons expliquée à partir des larges connexions des plus grandes villes qui ont un territoire d'influence qui dépasse les limites de leur propre système de villes. Et nous avons également pu observer, en testant le modèle, que dans l'observation empirique, dans la réalité de l'histoire des villes, on a toujours un effet de concentration vers les grandes villes qui est plus important que ce que le modèle de Gibra peut proposer, peut prévoir à partir d'un fonctionnement qui serait purement aléatoire. En outre, on observe des autocorrélations dans le temps ou dans l'espace de taux de croissance qui persistent un peu plus longtemps que dans un cas purement aléatoire, dans les mêmes régions ou sur les mêmes périodes, dans les mêmes villes. Donc, en fait, c'est que ce modèle statistique ne tient pas compte du fait que les systèmes de villes sont des systèmes géographiques, donc pour lesquels il y a effectivement des interdépendances, des échanges entre les villes qui interviennent, qui contraignent les distributions des taux de croissance et qui font qu'elles ne sont pas complètement aussi hasardeuses, aussi aléatoires que le prévoirait un modèle statistique. En fait, nous avons cherché des explications à certains basculements des taux de croissance qui vont isoler une ville ou un groupe de villes par rapport à l'élévation générale de la taille de l'ensemble des villes du système et qui peuvent s'expliquer à moyen terme pour une ville par le fait qu'elle va perdre de sa zone d'influence, soit à cause de modifications des territoires, Ça serait le cas de Vienne, par exemple, quand l'Autriche-Hongrie a été réduite au petit territoire de l'Autriche, mais aussi plus généralement de pertes de marché par concurrence d'autres qui émergent. Ou bien encore, la deuxième cause fréquente est celle de l'arrêt ou de la disparition progressive d'une spécialisation dans des fonctions urbaines qui deviennent obsolètes ou qui sont concurrencées par d'autres dans d'autres parties du monde, comme par exemple le problème des vieilles villes industrielles sidérurgiques en Europe qui ont été concurrencées par le développement récent des villes asiatiques où le travail était bien meilleur marché. Donc ces effets-là qui modifient la position des villes dans la hiérarchie et qui peuvent infléchir beaucoup leur taux de croissance par rapport au taux de croissance du système dans lequel elles sont incluses, on peut les observer ici en France entre 1830 et 1990, donc en abscisse on a le temps, et en ordonnée on a une expression du poids relatif de la ville dans le système des villes françaises. Alors, on voit une courbe montante pour Paris qui maintient, qui croît plus vite que l'ensemble des autres villes pendant tout le 19e siècle et qui récemment stabilise cette position. On voit la montée très rapide, encore plus rapide, d'une ville industrielle comme Saint-Étienne, qui va maintenir pendant tout le 19e siècle son rang élevé dans la hiérarchie, mais qui est en perte de vitesse depuis, du fait de la diminution de cette spécialisation. On peut expliquer des inflexions, comme à Toulouse, par la décentralisation de l'activité industrielle aéronautique dans cette partie du territoire éloignée des frontières allemandes après la Première Guerre mondiale, ou bien, dans le cas d'Orléans, une reprise de croissance de cette ville qui avait été pénalisée par absorption de ses ressortissants par Paris du temps de la pleine croissance parisienne et qui se trouve incluse aujourd'hui dans la zone des navettes domicile-travail et donc bénéficie d'une reprise de croissance liée à cette situation. Reprise de croissance que n'ont pas connue d'autres villes en orbite de Paris dans le bassin parisien, comme Amiens ou Rouen, dont l'importance diminue relativement. Ces inflexions de croissance, on les observe dans beaucoup de villes du monde liées à des changements de spécialisation ou d'importance de la spécialisation. Par exemple, Marseille a perdu de l'influence au moment de la disparition du domaine colonial et reprend aujourd'hui un petit peu d'importance grâce à sa position de grande ville en France et en Europe. En revanche, Rouen, d'importance plus moyenne, a subi vraiment de plein fouet le déclin relatif de son industrie textile, entre autres, et voit sa population relativement décliner en importance. Beaucoup de fluctuations dans le cadre d'Urban, qui a connu tous les cycles de l'exportation minière en Afrique du Sud et qui essaye de revitaliser son port actuellement. En revanche, Port Elizabeth, qui s'était spécialisé dans l'industrie automobile, subit le déclin de cette industrie. Et aux États-Unis, nous avons des revirements spectaculaires, comme celui de Détroit après 1950, qui, en dépit de politiques de rénovation urbaine, n'a cessé de perdre de l'importance à cause de la concurrence de cette spécialisation, alors que Dallas, ville pétrolière depuis la fin du 19e siècle, ne cesse de gagner du poids dans son système. Donc, en fait, nous voyons ici que la croissance des villes, ce n'est pas qu'un phénomène modélisable statistiquement, c'est aussi quelque chose qui se nourrit, notamment des innovations, souvent d'ordre économique, mais pas seulement, qui apportent de la richesse et des emplois nouveaux dans les villes et qui lient donc fortement la croissance urbaine au grand cycle d'innovation, puisque assez souvent elles se produisent en associant plusieurs activités qui se modifient toutes ensemble et donc forment ce qu'on appelle un cycle de développement. Cet apport de richesse se répartit dans le système des villes en deux temps. un premier temps où ils bénéficient d'abord aux plus grandes villes qui captent l'innovation. Puis, on a ensuite une distribution dans l'ensemble du système, une diffusion qui apporte cette croissance par imitation ou par relocalisation dans des villes de moindre importance. Et en parallèle, durant ces deux périodes, on peut avoir également des croissances qui s'expliquent par une forte spécialisation de certaines villes. Sur le plus long terme, on observe également des basculements de croissance qui peuvent bénéficier à l'émergence d'une ou de plusieurs villes. C'est ce qu'on appelle les modifications des zones de civilisation auxquelles les villes sont toujours associées, ou bien de transformation des réseaux qui portent des croissances. On a ici une représentation un petit peu particulière et pas forcément très juste, mais amusante, par Michael Batty de l'horloge du rang, qui montre sur la totalité de l'histoire du monde, donc depuis l'Antiquité, que certaines villes ont pu émerger, comme Babylone, Bénarès ou Suzhou, qui a été capitale de la Chine, et qui, après avoir donc été au centre qui représente les premiers rangs des populations des villes dans le monde, se retrouvent en situation périphérique. On peut suivre la trajectoire de Paris, qui, vers le Moyen-Âge, 12e siècle, était donc au niveau des 50 plus grandes villes, puis qui s'est rapprochée progressivement du centre pour devenir une des villes les plus importantes au 18e, puis ensuite rediminuée à partir du 19e siècle jusqu'à l'époque actuelle, où vous voyez que New York occupe encore une position très centrale. Bon, c'est une représentation qui ne tient pas compte du fait que les villes n'étaient absolument pas connectées dans le même système, évidemment depuis ces époques très lointaines de l'Antiquité. En revanche, cette connexion globale est effectuée désormais par toutes sortes de réseaux internationaux et des réseaux transnationaux, notamment des entreprises multinationales. Et pour conclure, donc, nous observerons ce basculement mondial de la croissance des villes depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui désormais localise les plus grandes villes dans les zones très urbanisées de l'Asie et également de l'Amérique latine, même si le Vieux Monde conserve encore certains de ses plus grands centres. Thank you.